Cube Radio.
Moi, je veux avoir genre un underground lair où est-ce que tu peux juste payer avec des pièces d'or. C'est tellement hot, là.
Oh my God,
dans ma vie. Moi, je veux tuer du monde, tout, là.
Oh. Pas de pièces d'or, tu rentres pas dans le bar, je suis désolé.
Salut aux amateurs d'originalité, de coopération, de jeux indépendants et de jeux faits au Québec et bienvenue au podcast de Pays sur Start. Mon nom est Christine, je suis en compagnie de la plus sucrée des humaines de cette planète. Vous la connaissez sûrement, ma très chère amie, Kazi.
Allô, Kazi est malade, fait que Kazi, elle va parler bizarre.
Parfait, ça. Alors, à chaque semaine, on amène dans vos oreilles un sujet lié de près ou de loin au monde du jeu vidéo. Et cette semaine, on a un sujet qui nous tient vraiment beaucoup à cœur. Et en plus, on a un invité parfait pour ça. Donc, cette semaine, on jase de quoi, Kazi?
On va parler de la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants au Québec. C'est un long nom, mais c'est pas pour rien qu'on parle d'eux parce qu'ils ont eu une contribution intéressante de Desjardins.
Extraordinaire, ouais.
Grosse nouvelle dans le monde indépendant québécois.
C'est qui est avec nous dans le studio?
Aujourd'hui, on a Christopher Shanty qui est avec nous, qui est secrétaire à la Guilde, mais qui est aussi CEO de sa propre compagnie, Manavoid, qui sort un jeu plus tard cette année. On va en parler plus vers la fin. Mais aujourd'hui, on veut savoir c'est quoi la Guilde? Parce que là, on a lu l'article partout, on l'a vu circuler en ligne, Desjardins contribue de l'argent, nanana. Mais la Guilde, c'est ça le mot-clé de cette nouvelle-là. C'est quoi la Guilde? Christopher, tu vas nous en parler aujourd'hui.
Fait que la Guilde, oui, c'est une coopérative qui a été partie il y a 3 ans. Au début, on était une trentaine de studios qui ont comme fondé cette bébite-là. Puis, dans le fond, c'était une réponse essentiellement au fait que à chaque fois qu'on parlait de jeux vidéo au Québec, ben on demandait l'opinion à Ubisoft ou à Warner ou aux gros studios, mais on n'avait personne pour parler au nom des petits. On est chanceux au Québec d'avoir des gens comme Ubisoft, des grosses compagnies comme ça avec nous autres. Ça crée un écosystème, les gens se font former là-bas et tout. Mais il y a beaucoup de gens qui break off un petit peu de Ubisoft puis qui forment leur propre studio. Et puis, ben, les enjeux qu'on a, c'est pas les mêmes que Ubi. Fait que c'est sûr que nous, on voulait un petit peu que notre voix soit entendue. Alors, on a parti ça, puis on savait pas trop combien de studios indépendants il y avait au Québec. Turns out qu'aujourd'hui, il y en a 162 dans la game.
Ils sont pas toutes là non plus, fait qu'il y en a encore plus que ça.
Ah non, c'est ça. Il y en avait beaucoup plus qu'on pensait, puis ça grandit vite. Et puis, essentiellement, la Guilde, c'est ça, c'est un regroupement de studios indépendants qui ont compris qu'en faisant de la coopération, en échangeant des bonnes pratiques, en négociant des offres de services ensemble, on avait juste des gros avantages à être tous ensemble dans cette aventure-là de faire des jeux vidéo.
Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que veux pas, on connaît l'industrie un petit peu du jeu vidéo, c'est une industrie compétitive. Fait que de voir au Québec une coop qui se forme, où est-ce que vous allez vous côtoyer, mais vous êtes quand même en compétition, même vous entraider, c'est comment vous gérez cette ligne-là?
Mais ce qui est drôle, en fait, c'est unique vraiment aux jeux vidéo, c'est qu'on n'est pas tant en compétition parce que notre marché, c'est pas le Québec. Tu sais, la pointe de tarte, c'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est l'Europe, c'est partout. Là. Fait que y a un en masse de gens qui jouent à des jeux vidéo dans le monde. Fait qu'on se fait pas vraiment compétition directement. Tu sais. Fait que en réalisant ça, ben on se rend compte que quand la pointe de tarte c'est la terre entière, ben on peut tous la diviser bien également, puis on va avoir en masse de ventes. Tu sais, fait que puis on a des métriques pour le prouver. Là, je veux dire, en coopérant, ben on en tire plus de jus, puis on tire des meilleurs résultats de nos sorties de jeux.
C'est tellement une belle philosophie. Je pense qu'il y a plusieurs industries qui pourraient s'inspirer un peu de ça.
Ben, c'est difficile. Ça dépend vraiment de l'industrie. T'sais, c'est sûr que si j'avais un magasin de souliers puis à côté d'un autre magasin de souliers, ben là, je fais directement compétition parce qu'on se bat pour la même clientèle. Mais le jeu vidéo, c'est pas ça. J'ai eu la chance d'aller à l'ONU cette année pour parler de ça, justement. C'était comme un genre de forum international sur l'économie sociale et solidaire, qui disait. Et puis, ils ont invité la Guilde, c'était la Caisse d'économie sociale de Desjardins, qui nous ont invités là pour parler justement de notre expérience. Puis, tous les pays qui étaient là parlaient de trucs qu'ils voulaient faire. Puis, le Québec était parmi les seuls qui étaient là en train de le faire avec la Guilde.
Donc, on était à l'avance sur quelque chose.
On était vraiment à l'avance. On était super bien représentés, en fait. On devrait être fiers.
C'est intéressant de voir qu'au Québec, dans l'industrie, on est comme un peu à l'avance, les choses se forment, mais ben, on n'en parle pas.
Non, mais c'est sûr, on le voit aller là depuis qu'il y a eu le gros financement en 97 par M. Landry. Là, le Québec est devenu un leader mondial du jeu vidéo. Puis on l'a vu, les chiffres ont doublé, là, la quantité de studios indépendants qui se sont installés au Québec sans bénéficier du financement a triplé depuis de nombreuses années. Là.
Exact.
Puis je pense que vous le voyez, là, la Guilde, des organismes comme le vôtre, ils sont nécessaires maintenant là, pour faire briller le Québec. Là.
Mais il y a toujours place à amélioration encore, mais on est incroyablement chanceux d'avoir ce legs-là de M. Landry qui a vraiment catapulté en fait le Québec dans le domaine. Quand que les gros studios internationaux se sont placés ici, puis avec toutes les mesures fiscales puis les incitatifs, on pourrait penser que c'est des grandes aides, mais honnêtement, c'est que tout l'argent du jeu vidéo qu'on est en train de faire, c'est de l'argent de l'extérieur qu'on rentre au Québec, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que l'économie, elle roule vraiment rapidement avec ça. Et puis aujourd'hui, comme tu as dit, on a tellement de nouveaux studios qui ouvrent parce que la démocratisation des outils est là. Il y a plein d'outils gratuits pour faire des jeux vidéo. Il y a des tutoriels en ligne. On est une génération de gens plus créatives. On est plus futés aussi. On est plus numériques. Fait que c'est sûr que les studios, ils se développent. Maintenant, on essaie de que ces studios qui se développent là et les outils pour être capable de réussir. Parce que c'est pas facile partir en affaires. Il y a plus que faire le jeu. Il faut que tu t'occupes de ta comptabilité, de tes administrations. Il y a du juridique là-dedans. Je veux dire,
le marketing.
Oui. C'est une grosse bébite faire un jeu vidéo. Puis avoir une compagnie, c'en est encore plus. T'sais. Fait que là, en ayant la guilde, en ayant ces outils-là, en étant capable d'échanger avec les autres, ben tout le monde a une bien meilleure chance de réussir, je pense.
Puis la guilde, là, tu parles d'environ combien de studios que ça représente?
Fait que 162 studios.
Ça représente combien d'emplois, ça?
2200 emplois.
C'est énorme.
Ouais. Énorme. C'est... Donc, c'est un gros roulement d'économie pour le Québec, là, indépendamment.
Oui, absolument, absolument. C'est un gros morceau, puis on espère que ça va continuer à grossir
ben oui,
comme ça.
C'est beaucoup d'emplois, mais aussi, on commence à constater que les programmes à l'école aussi, il y en a de plus en plus qui touchent le jeu vidéo, des compétitions aussi de jeux vidéo, des trucs comme ça, qui se font au niveau de l'école. On voit qu'il y a des compagnies aussi qui s'en vont chercher des stagiaires beaucoup. C'est intéressant de voir que le jeu vidéo est super présent dans la culture québécoise. Mais comme je le répète encore, on n'en entend pas souvent parler, mais il se passe tellement d'affaires. Ce qui est intéressant, c'est que, mettons, un ado qui veut aller, ou un ado qui veut aller dans le domaine du jeu vidéo va pouvoir peut-être référer ses parents à la guilde, par exemple, pour expliquer, pour démocratiser justement c'est quoi cette industrie-là, puis les chiffres, c'est tellement important.
Les chiffres,
oui. Oui, c'est ça. Ben, je veux dire, quand moi j'étais jeune, j'ai jamais dit à mes parents que je voulais faire des jeux vidéo.
Non,
moi,
c'est ça.
J'étais parti pour être médecin, là, je sais pas. Puis à un moment donné, ben, j'ai essayé ça un petit peu de la programmation. Je trippais pas tant faire de la facturation, des affaires comme ça. Ce que tu apprenais à l'école, c'était vraiment pas trippant. J'ai eu la chance d'aller à l'Université de Montréal en cinéma. J'ai rencontré un monsieur là-bas qui s'appelait Bernard Perron, puis il a parti un peu la vague des cours de jeux vidéo à l'Université de Montréal. Fait que après une mineure en études de jeux vidéo, je suis allé faire une spécialisation en design de jeux. Puis là, on a toute une gamme de programmes qui depuis se sont développés. Sauf que ça reste quand même à un niveau cégep-université. Puis là, nous, on essaie de marteler le point que d'apprendre la programmation au secondaire ou même d'initier un peu l'apprentissage à travers le gaming, ce serait quelque chose qui pourrait, ben, de un, intéresser les jeunes dans cette industrie-là, puis la programmation qui est vraiment les jobs du futur, là. Puis de deux, combattre le décrochage scolaire aussi du
mais
même coup.
Ça, c'est mon expérience personnelle. Là. J'ai pas de statistiques pour soutenir ça, mais j'ai l'impression que justement la programmation, le design, les choses comme ça, ça va chercher les gens dès l'adolescence. Mais seulement s'ils savent que ça existe. Anecdote personnelle, moi, quand j'ai commencé à programmer, j'avais 14 ans, puis j'étais exposée à ça, à cet âge-là, puis j'aurais pu continuer là-dedans. Je me dis que s'il y a plus d'ados qui étaient au courant que la programmation, ça existe, ils savent pas que ça existe nécessairement. Tu sais, c'est pas juste, il y a pas juste deux jobs dans le monde du jeu vidéo. Il y a tellement de positions différentes. S'ils étaient au courant.
Ah ouais, des centaines de jobs, là. Ouais, vraiment.
C'est ça, il y a tellement de postes. Tu peux travailler, tu peux étudier en marketing, université, tout le long, puis finir dans une compagnie de jeux vidéo, même si t'as pas fait aucune étude lié aux jeux vidéo. C'est ça qui m'intéresse aussi comme dans la promotion de ce milieu-là qui est tellement vaste.
C'est ça, c'est un produit culturel. T'as tout le côté artistique, oui. T'as tout le côté technique derrière. T'as tout le côté mise en vente puis tout le côté business aussi. Je veux dire, ça... C'est une vaste gamme de jobs possibles. Fait que, tu sais, que tu sortes d'un cégep ou de l'université ou du HEC ou whatever, tout le monde peut, avec n'importe quel diplôme, pas mal toucher aux jeux vidéo s'ils veulent pour vrai. Là.
Moi, je suis curieuse de savoir, là, il y a Desjardins qui ont contribué 750 000 $ à la guilde. Ça, c'est un article qu'on a sorti. Vous pouvez regarder sur le journal de Montréal.com/paysurstart. On a écrit un bel article là-dessus. Mais ça veut dire quoi? Parce que là, c'est pas nécessairement clair pour monsieur, madame, tout le monde à qui va cet argent-là, mais c'est à la guilde que ça va.
Comme je disais tantôt, il y a 3 ans, quand on a parti ça, on était une trentaine de studios. Puis le conseil d'administration était de 7 personnes. Fait que c'est essentiellement ces 7 CEO d'entreprises qui bénévolement ont donné du temps pour essayer de regrouper tout le monde puis essayer de donner une voix aux indépendants au Québec. Mm-hmm. Fait que là, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Et moi, cette année, j'ai eu la chance de joindre le CA justement pour faire mon bout. Et puis, on est arrivé au bout, dans le fond, d'un gros processus où est-ce qu'on avait maintenant une représentation politique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de politiciens qui savaient c'était quoi la guilde, ils comprennent qu'il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui sont là en train de développer, même si c'est des PME, on est tellement nombreux qu'au bout du compte, ça donne un gros nombre. On a aussi plein de partenaires de services, donc en comptabilité, services juridiques, aide pour les crédits d'impôt, des compagnies de QA.
C'est ça, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de partenaires au bas de votre site. On
ouais,
en voit beaucoup.
C'est
là.
Ça, mais en fait, le modèle de la guilde, c'est une co-op. Fait que tu payes 150$ une fois comme studio, puis t'es membre de la guilde. T'sais, on n'a pas de membership annuel, rien de ça. Mm-hmm. La manière que ça fonctionne, c'est on offre des services aux membres qui sont moins chers. Fait qu'on leur donne un rabais de groupe, dans le fond, parce que c'est le rabais de la guilde. Puis sur ce rabais-là, il y a un petit pourcentage qui va aux opérations de la guilde. Fait que on roule, dans le fond, à travers les services que nos membres utilisent. Fait que plus qu'on a des partenaires de services intéressants, puis plus que les deals qu'on fait sont bons, mais plus que les gens vont utiliser le service, puis au bout du compte, la roue continue à tourner pour la guilde. Mais là, pour être capable de traquer toutes ces personnes qui utilisent ces services-là, pour être capable de construire ça de manière intelligente, parce que c'est pas une personne qui va se souvenir de quel studio a pris quel service, t'sais. Il fallait qu'on développe une grosse plateforme pour ça. Puis c'est ça qu'on a fait valoir à Desjardins, qui est une autre coopérative. Et puis eux autres, ils ont compris la valeur de ça. Et puis ils vont nous aider à développer cette plateforme-là avec le 750 000 qu'ils nous ont donné sur 3 ans.
Fait que dans le fond, ils vous aident à aider.
Oui, exact. Mais Desjardins, ils ont un truc qui s'appelle le Fonds de 100 millions, Fondation Desjardins. Et puis ils donnent justement des aides à d'autres coopératives pour être capable de se mettre en forme et capable de faire véhiculer ce modèle-là. Fait que quand que nous, on est arrivé avec tout ce qu'on avait réussi à faire jusqu'à date sur le bénévolat qu'on a réussi à avoir de tout le monde qui a donné un coup de main, ben là, ils ont vu qu'on était organisé, ils ont vu qu'on était sérieux, puis ils ont vu qu'on était beaucoup, et puis ils ont voulu donner ce coup de main-là pour qu'on puisse se pérenniser, dans le fond, à travers le temps.
Fait que j'imagine un coup de main qui vaut 750 000 $ de Desjardins fait en sorte que, comme vous êtes une guilde très sérieuse, une coopérative très sérieuse, ça veut dire que dans votre futur, il y a peut-être d'autres gros noms qui s'en viennent pour vous. C'est ce que vous espérez, là.
Bien, c'est sûr que ça nous donne un gros coup de main, ouais. Parce que tout ce qu'on a construit maintenant, ben ça l'aboutit à ça, puis c'est énorme. T'sais, moi, en tout cas, je suis super content de voir que, comme tous les efforts qu'on a mis, ben ça sera pas perdu.
Parce c'est
que
très gros au niveau c'est... Québec, oui, c'est très gros.
Mais moi je suis super fier de la job que tous les studios ensemble, on a réussi à faire. Et puis, effectivement, on peut espérer d'autres noms qui rejoignent, d'autres noms qui veulent s'associer à la guilde, d'autres partenaires de services qui veulent nous offrir des trucs intéressants parce qu'ils commencent à comprendre qui on est. Le futur est très bright, mais on n'a pas fini, là, puis on travaille sur des grandes choses. Il y a des trucs qu'on peut discuter, il y a d'autres trucs, c'est encore un petit peu en coulisses, puis il y a d'autres trucs que c'est nous qui rêvent un peu comme des débiles, là, mais...
Mais c'est bon, c'est comme ça que vous êtes rendu où est-ce que vous êtes en rêvant un peu, tu sais, au début, c'est très ambitieux.
Oui, mais puis ce qui fonctionne aussi avec la guilde, c'est vraiment comme incroyable, en fait, là, c'est... on est super agile puis on est super willing parce que c'est tous des entrepreneurs qui, dans le fond, qui font partie de ça. Fait que quand on dit, faut faire telle affaire parce que c'est comme tel avantage, ou, tu sais, c'est comme facile de parler avec d'autres entrepreneurs qui eux aussi veulent avancer les choses. Mm-hmm. Fait que la roue, elle tourne très vite. Fait que dès qu'on parle sur Facebook ou dès qu'on a besoin que nos membres rejoignent un événement comme le Montreal Expo Gaming Arcade, par exemple, ça fait la deuxième année qu'on a fait en novembre passé. Mais tout le monde répond à l'appel tout de suite parce qu'ils comprennent qu'il faut véhiculer ce message-là que les indies, on est fort, on est bon, on est tout au Québec, puis il faut qu'on s'entraide, puis il faut qu'on montre au monde qu'on est incroyable, tu sais.
Vous êtes tellement nombreux au Québec, moi je perds le compte là, quand je regarde, on dirait qu'il y en a un nouveau studio qui pop à chaque semaine. C'est ça que je trouve fascinant, mais c'est ça que je me demande. Oui, on a la contribution de Landry qui est très intéressante, mais c'est quoi qui fait que dans l'ADN des Québécois, on est des bons développeurs indies à tous les niveaux, là, dans le niveau créatif, dans le niveau entrepreneur aussi? Ils sont pas de même, il y a pas ça à Winnipeg, là.
Non, ben
ça, je me demande.
Je vais paraphraser un ami à moi, Jeff Boivin de Panache Studio, qui disait l'autre jour, puis je trouvais ça super intéressant, que le Québec, c'est le parfait mélange du American Dream avec une influence européenne. Tu sais.
C'est tellement vrai.
On a toute la créativité, puis tout le côté artistique des Européens, mais on a toute la drive, puis tout le know-how, puis le feu d'un rêve américain de vouloir réussir, de vouloir créer des choses, de vouloir bâtir. Tu sais. Fait que ça fait que le Québec est comme uniquement positionné dans le monde pour être capable de faire ce qu'on fait.
Le modèle de la guilde, est-ce que vous avez vu des copies qui se sont faites dans le monde depuis?
Il y a des gens qui regardent la guilde puis qui aimeraient être capables de reproduire ce modèle-là. Notamment, je crois qu'on a parlé dernièrement au Japon, où tu sais, il y a comme des places à travers le monde qui sont en train de regarder ce qu'on fait puis qu'ils veulent émuler. Mais concrètement, il y a personne qui l'a fait encore. Puis encore une fois, tu sais, le Québec a beaucoup de développeurs de jeux vidéo. En fait, au monde, on est per capita le plus de développeurs de jeux vidéo.
C'est fou, hein? C'est vraiment intense.
J'aime ça qu'on entend ça.
Ouais. C'est sûr qu'on est dans une situation avantageuse, unique, d'être capable de rassembler tout ce monde-là. S'il y avait assez de gens, ben, on pourrait penser à la Californie, par exemple, parce que le genre de modèle pourrait fonctionner. On pourrait penser en Chine aussi ou au Japon. Je pense que c'est des places où est-ce que ça pourrait fonctionner. On espère devenir assez gros puis devenir un success story que les gens vont vouloir émuler, là. Le temps le dira, mais c'est sûr qu'avec l'aide de Desjardins, ça risque de se réaliser.
Oui, c'est un bon début, ça commence bien l'année.
Oui.
Ça fait combien de temps exactement que vous avez été comme officiellement formé?
La guilde, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que ça existe.
Ça fait tellement pas longtemps.
C'est rapide là, comme croissance. Là.
Oui, c'est très rapide comme croissance. Puis c'était énormément d'heures par semaine aussi.
Vous avez fait ça à l'extérieur de vos heures de travail pour la cause.
Ouais, ben des fois c'est pendant les heures de travail aussi. Mmh. Je veux dire, tu sais, tu fais ce qu'il faut pour cogner à toutes les bonnes portes. Là. Tu sais, particulièrement pour tout ce qui est représentation politique, tu sais, c'est comme pas facile de rejoindre ces gens-là puis de faire comprendre c'est quoi les jeux vidéo puis c'est quoi les avantages du jeu vidéo. Tu sais, tu disais tantôt qu'on en parle pas souvent des bons coups dans le jeu vidéo. On peut parler des success stories comme Outlast de Red Barrels,
ben oui.
Ou on peut parler justement des Outer Minds ou de Panache, ou on peut parler de plein de studios qui réussissent sabotage avec The Messenger.
Ben oui.
Et puis, au bout du compte, dans le milieu, on les connaît tous, puis on est tous super fiers d'eux autres, mais monsieur, madame, tout le monde, mais ils savent pas à quel point qu'on est bon parce que...
Il y a personne pour en parler.
Ben, de un, on n'a pas beaucoup, effectivement, d'influenceurs qui sont capables de démocratiser ça pour les parents, tu sais, ou démocratiser ça pour la génération un petit peu plus vieille, qui voit encore ça comme le Nintendo, tu sais... 8 bits, 16 bits, là, quand j'étais petit, là, dans le fond.
Ce qu'on entend souvent dernièrement, puis ça, c'est quelque chose que vous entendez peut-être. Nous autres, on reçoit des commentaires tout le temps. Je veux que mon fils ou ma fille lâche Fortnite cette année. Mais le jeu vidéo, c'est tellement plus vaste que ça, c'est tellement plus grand que ça. Moi, je me rappelle avoir 9, 10 ans, puis jouer à Doom avec mon père. Puis c'était comme, wow, la musique est écœurante, les couleurs sont écœurantes. Dans le temps, c'était beau, hein, Doom 2, là.
Mais oui, mais oui.
T'sais, moi, j'écoutais les sons, puis j'étais comme, ah, ils ont-tu enregistré des vrais monstres? Comment qu'ils ont fait? c'est comme on crée un film de A à Z. C'est une énorme industrie avec plein de travail. C'est pas juste des petits bonhommes, sa télévision, puis la titre. Moi, c'est ça qui me gosse, là, honnêtement, de la perception médiatique même. Parce que comme l'histoire de Outlast 2, c'est quelque chose, selon moi, qui aurait dû être front page beaucoup à cause que c'était tellement une grosse nouvelle. Puis, ils sont combien Red Barrels? Genre 10?
Ouais, 10, 12, quelque chose comme ça.
Petite compagnie. Moi, je me dis 10, 12 gars qui font un jeu qui est number one partout, qui a fait peur à tout le monde, que PewDiePie a joué, le gars avec 80 millions d'abonnés. Peut-être pas dans ce temps-là, mais quand même. Tu sais, je ne comprends pas pourquoi c'est pas front page partout. Est-ce que le Québec général, peut-être M. Manteau, n'est pas assez intéressé? Ou est-ce que les médias ne se forcent pas assez pour en parler? Moi, c'est ça, je me demande, la guilde, comment vous percevez ça?
Moi, je pense qu'à quelque part, il y a définitivement un biais négatif vers le jeu vidéo, comme si c'était encore quelque chose d'enfantin. C'est pas tout le monde qui le voit comme une business sérieuse encore. Ce qui fait que quand tu as un bon coup, ben même si tu rattaches des chiffres à ça, c'est comme « ouais, mais c'est du jeu vidéo, c'est comme pas de la vraie business, ou c'est pas du serious business. »
Ça le fait dire tout le temps.
Mais En tout cas, avec la guilde, on essaye un petit peu de venir éduquer, en fait, monsieur et madame tout le monde. Avec les événements qu'on crée particulièrement, là, fait qu'on a l'Odyssée musicale du jeu vidéo.
C'est ça, c'est vous, ça?
Oui, c'est la guilde qui a parti ça, où est-ce qu'on essaye de highlighter la musique qui se fait dans le jeu vidéo au Québec. Puis ça, on trouve ça important parce qu'il y a vraiment peu de gens qui parlent de la musique, même à travers le monde, en fait, dans le jeu vidéo. Là, ça, c'est pas juste unique au Québec. Puis, le méga, comme j'ai mentionné tantôt, qui est essentiellement la place où est-ce que tous les studios québécois peuvent se rassembler pour montrer leur jeu au monde. Tu sais, en tant que développeurs de jeux, quand on veut mousser un projet, on va tout le temps à PAX East à Boston, parce que là que c'est le plus proche, puis il y a vraiment beaucoup de monde.
Mais c'est loin, tu sais, rendu là.
Il n'y a pas de développeur de jeux à Boston. Fait qu'on se demandait pourquoi est-ce qu'on s'en va là-bas.
Pourquoi c'est pas à Montréal?
On a plein de gens qui trippent sur le jeu vidéo à Montréal. Vraiment, vraiment beaucoup. Fait que là, tranquillement, notre première année, on avait un bon achalandage. Deuxième année, on a rajouté des étages, puis on était achalandé encore. Là, la troisième année, elle s'enligne pour être dans un encore plus gros endroit. Fait que ça, on va l'annoncer probablement autour de mars-avril.
Ah oui, il faisait chaud. Il y a beaucoup, beaucoup de monde.
Oui, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, tranquillement, le bouche-à-oreille se fait. Puis je pense que ça va être un processus, mais au fur et à mesure que ça va, si on continue à grinder ça, bien, je pense que monsieur, madame, tout le monde va finir par réaliser à quel point c'est cool ce qu'on fait.
Quand on parle de monsieur, madame, tout le monde, là, donc la mission de la guilde est d'éduquer monsieur, madame, tout le monde. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on parle aussi de promouvoir des programmes d'études niveau secondaire, de promouvoir les équipes de e-sports qui sont fondées dans les cégeps, les compétitions et tout ça. Ça aussi, c'est votre but, là.
Oui et non. Tu sais, la vraie mission de la guilde, c'est de pérenniser les studios indépendants québécois.
Ouais.
Fait que, tu sais, pour faire ça, on pense que c'est important d'éduquer. Fait qu'à travers cette vue-là, dans le fond, c'est comme ça qu'on essaie d'éduquer les gens. En ce moment, notre président, Louis-Félix Cochon, il est sur plusieurs pôles, en fait, le pôle de la créativité numérique. Il y a un pôle aussi de l'éducation, puis on est en discussion constante, en fait, sur comment est-ce qu'on peut réimaginer un peu l'éducation, puis comment est-ce qu'on peut former les jeunes pour, justement... Les jobs de demain avec le jeu vidéo, puis pas juste le jeu vidéo, je veux dire des programmeurs, il y en a dans toutes les sphères, là, du web, whatever.
Programmeur, tu peux aller, tu peux presque choisir l'institut.
Designer, artiste, infographiste,
tu peux choisir ton métier après ça.
C'est clair, mais on a définitivement le goût de faire ces choses-là, on veut vraiment faire ces choses-là, mais au bout du compte, ce qui est vraiment important pour nous, c'est que le jeu vidéo au Québec, il soit valorisé, puis que les gens soient capables de partir des studios, puis que les studios survivent. C'est ça qu'on veut vraiment qu'il arrive.
Donc, votre souhait en tant que guilde ou en tant que membre de la guilde ou studio, c'est que nous, en tant que médias traditionnels, c'est qu'on dise, vous savez quoi, le succès des studios indépendants doit être comparé à un film de Jean-Marc Vallée. Là. Ça devrait être ça. Là.
Définitivement, c'est un produit culturel, c'est le 10e art. Moi, je pense qu'il y a tellement de différentes sphères artistiques qui se mélangent en une. Un jeu vidéo, là, c'est incroyablement complexe. Là. C'est mélanger des interactions avec des images, des sons, de la musique, de l'écriture. Je veux dire, ça touche à tout. Là, puis, si on est capable de faire quelque chose d'assez élégant, bien, c'est là qu'on a un hit. Puis quand on a des hits au Québec, il faut absolument en parler. Là. Je pense que
c'est un must. Ça dure longtemps aussi, les hits, parce que maintenant, dans le jeu vidéo, c'est plus comme avant. Tu rentres la cassette de la titre. Là, maintenant, il y a les DLC, il y a les suites. Donc, c'est pas comme l'instant d'un film. On regarde le film de la titre, c'est fini. On va revoir le film peut-être. Là, c'est comme on peut vraiment construire avec les indépendants. On peut faire partie de cette aventure-là avec en tant que gamer.
Je pense que l'exemple parfait, là, oui, c'est pas un jeu indépendant, mais l'exemple parfait, c'est Skyrim qui vit encore 6 ans plus tard.
Il va jamais mourir.
Il sort sur toutes les nouvelles consoles à chaque fois qu'il
naît. Donc, c'est exactement ça. C'est le fait de dire que il y a tellement de longévité possible pour tous les produits de jeux vidéo qui fait qu'en sorte que un film, là, ça sort de la première, il y a le gros box-office, puis après, bon, ça descend en chiffre, puis on l'oublie, là, tu sais, puis on va le réécouter.
Peut-être que tu vas le pogner sur Netflix dans 2 ans.
Exactement, mais un jeu vidéo, tu sais, ça vit encore, là. Moi, je souffre encore dans des cassettes de 1984, là, tu sais.
Ben oui.
On va toujours encore jouer à ça, là. Fait que je pense que, puis c'est très noble, là, de votre part, de la guilde, de dire, on va promouvoir ça, puis on veut que ça devienne mainstream, que le jeu indépendant devienne mainstream, puis que tout le monde dise, OK, bon, ben finalement, c'est aussi précieux que une peinture de Picasso, mettons, là, tu sais, c'est exactement ça.
C'est clair. Ben, en tout cas, moi, je le crois vraiment.
Ben, nous aussi.
Dans le fond, ça. Moi, je pense même, ben, tu sais, il y a Journey, en fait, il y a 2 ans, je pense, ou 3 ans, 4 ans, peut-être que le temps m'échappe.
Oui.
Mais, qui avait, la musique avait été nommée aux Oscars, justement, tu sais. Fait qu'il y a quand même, c'est pas comme s'il y avait aucune reconnaissance, mais elle n'est pas au même niveau que le cinéma ou pas au même niveau que la musique. On n'est pas encore autant hype. Mais on va y arriver. Moi, je crois vraiment que tranquillement, à chaque année, tout le monde commence à réaliser à quel point que c'est huge. Avec les nouveaux corps de métier, avec les nouveaux médias comme YouTube, avec Twitch, avec toutes ces affaires-là qui sortent aussi, tout le monde s'ouvre les yeux aussi à des nouvelles manières de communiquer, des nouvelles manières de promouvoir. Fait que tranquillement, je veux dire, c'est comme inévitable que tout le monde va savoir c'est quoi Twitch, puis tout le monde va savoir c'est YouTube, puis tout le monde va savoir c'est quoi les jeux, les bons jeux vidéo.
C'est ça, faut que ça arrête aussi de venir de façon super sensationnaliste, mettons comme il se passe de quoi sur Twitch qui est super clickbait, super grave. C'est comme ça qu'on va entendre parler de Twitch.
Et pourtant, c'est le contraire qu'on veut.
C'est ça qui est arrivé, malheureusement. Ouais. T'sais, c'est ça que Twitch est venu dans la conscience québécoise dans des circonstances négatives. Puis j'ai fait le tour des radios pour dire Twitch, en passant, c'est pas, ça date pas de cette année. Là. Pourquoi qu'on n'en parle pas déjà? Parce que moi, je me dis, chez vous, si vous avez des enfants, vos enfants sont sur Twitch. Là. c'est pas, je devrais pas vous informer de ça. Maintenant, ça fait partie de la vie des ados, des jeunes adultes. Twitch fait partie de notre vocabulaire. Moi, je comprends pas. Mais en tout cas, j'espère qu'on va commencer les médias en général à être plus intéressants dans le monde du jeu vidéo, que ça soit pas juste comme « Hey, il y a un gars qui a tué son chat sur Twitch, faut en parler. »
Non.
Tu sais, comme là, il y a eu une levée de fonds de 340 000 $ qui s'est faite sur Twitch en 50 heures. Pourquoi ça intéresse pas le monde? Moi, je comprends pas.
Ouais, ben, c'est quoi? C'est Awesome Games Done Quick.
Ouais, ben, 2 millions.
Speedrun,
ouais,
2,3 millions. Ouais. Puis chaque année, ça monte. Je veux dire, le fait qu'à chaque année, ça monte quand même qu'il y a un engouement qui perdure. Puis dans des trucs niches du jeu vidéo, en plus, comme des speedruns, tu sais.
Ouais. C'est très niche.
Moi, je vais attendre ça à mes nouvelles le soir. À 6 heures, quand j'écoute les nouvelles, je veux qu'ils parlent de ça. Mais bon,
c'est notre mission à nous.
C'est notre mission à nous. Invitez-nous, on va vous en parler, nous autres, des speedruns.
C'est clair.
Toi, en tant que CEO, quand même, t'es Mr. President de ta compagnie.
Mr. President.
C'est à ton avantage, dans le fond, de faire partie d'une guilde comme ça, parce que tu veux faire avancer l'industrie pour ta compagnie aussi. Peux-tu nous expliquer un peu comment ta compagnie a commencé? C'est quoi vos jeux? Qu'est-ce que vous faites?
Oui, c'est clair. Ben, y a deux manières de partir une compagnie en jeux vidéo. C'est soit tu vas travailler dans des grosses entreprises vraiment cool comme Ubi, puis tu apprends comment bien faire les choses, puis après ça, tu sors, puis là, avec plein de bon knowledge, ben, tu pars ta business. Moi, j'ai pas fait ça. Moi,
ouais, c'était probablement un des seuls que je connais qui a pas fait ça.
Tout de suite, en sortant de l'université, j'ai décidé, avec deux partenaires, de faire la méthode casse-gueule.
Et oh
puis,
my God.
On savait un petit peu comment programmer, on savait un petit peu comment faire du art, mais on savait surtout comment bien designer des trucs, puis on a pensé à notre marketing en premier. Fait qu'on on avait un jeu, une idée de jeu qui était essentiellement, on voulait faire un jeu où est-ce que t'étais la personne qui donnait les quêtes puis qui donnait la job à des aventuriers qui allaient sur une map monde faire les quêtes. Mais tu sais, c'est pas toi qui faisais les quêtes, tu faisais juste les donner. Puis après ça, tu les recrutais, tu leur donnais un bonus à la signature, un salaire. C'était comme un genre de gestion, jeu de gestion RPG, dans le fond, qu'on a créé.
Nice.
Ça s'appelait Epic Manager, puis on a sorti ça en 2016 avec presque aucun fond. On a réussi à sortir ce jeu-là en un an et demi. Et puis, tout dernièrement, on a développé un nouveau jeu qui s'appelle Steamboat Billy, The Curse of the Leviathan. Puis on a fait un Kickstarter pour ça qui a levé 90 000 $. On a eu de l'aide du Fonds des médias du Canada aussi pour monter le prototype. Puis là, on a un prototype solide, puis on va le montrer à PAX East bientôt, puis on va le montrer au GDC aussi à San Francisco. Puis on espère avoir un publisher peut-être qui s'intéresse, un éditeur de jeu ou de rentrer aussi en production avec le Fonds des médias du Canada pour pouvoir finir cette aventure-là avec ce projet-là. Puis on a toujours 3-4 projets sur le side aussi qui n'ont pas encore été annoncés encore. Mais notre jeu Steamboat Billy, c'est un mélange de Zelda Wind Waker avec Pokémon, parce que tu pêches.
Oh my God, les deux plus belles choses que tu pouvais dire.
Dans le fond, t'es dans un bateau puis tu pêches des créatures qui vont se battre avec toi dans un genre de turn-based RPG system.
Malade.
Dans une esthétique qui rappelle un peu Disney Cuphead.
Oui, c'est ça. Oui, c'est. Mais c'est magnifique. Allez voir ça sur Kickstarter. qu'est-ce qu'on ferait en 2019? On n'est pas 2019 sans Kickstarter. Maintenant, je trouve, j'ai l'impression que ça aide tellement de plus petites compagnies à juste partager leur vision, pas nécessairement d'amasser tous les fonds, parce que je suis sûre que ça coûte bien plus que juste ce que vous levez, mais juste de faire connaître votre projet, parce que, tu sais, mettons, les polygones de ce monde vont venir, tu sais, ils vont traverser les Kickstarter puis dire « Hey, ça a l'air cool, ça ». Moi, mm-hmm. c'est comme ça que j'apprends à propos de plein de jeux, souvent.
Ben oui. En fait, c'est que pour des startups en jeux vidéo, puis ça, c'est un autre truc que la Guilde essaie de faire comprendre au gouvernement puis aider, c'est vraiment tough d'aller chercher ton premier financement, tu sais. Fait qu'on est bon, en fait, à aider l'entrepreneuriat au Québec. Mais vu que le jeu vidéo est encore considéré risqué parce qu'on comprend pas les modèles d'affaires, tu sais, tu vas voir un investisseur puis t'essaies d'y parler de free-to-play, c'est comme pas facile tout de suite la discussion, tu sais, c'est mais comme...
Comme microtransaction, il est ça. Comme « what? »
Ouais, de quoi tu parles, là? C'est où mon return on investment, tu sais? C'est comme, c'est surtout
what's
ça que...
What's a premium?
Exact. Fait que c'est comme un challenge, en fait, d'aller chercher cet investissement initial-là. Surtout quand que t'es pas quelqu'un de super connu, tu sais. Fait que si t'as fait un peu comme moi, puis tu prends la méthode casse-gueule, ce qui est possible aujourd'hui, puis honnêtement, tu peux réussir. C'est tough les premières fois. Faut que tu shippes un jeu, faut que tu montres que t'es capable, faut que tu montres que t'as fait de l'argent avec ton premier jeu. Puis après ça, les gens te font un petit peu plus confiance, mais ça reste un challenge. Fait que Kickstarter, c'est excellent parce que de un, ben tu réussis à aller chercher ton début de financement pour un projet, mais surtout tu réussis à valider ton marché, tu sais. Tu le sais, ouais, tout de suite s'il y a des gens qui vont l'acheter ou pas. Fait qu'au lieu de perdre 2 ans de ta vie à faire un jeu vidéo, puis quand tu le launches, ben il y a personne qui voulait l'acheter. Si tu fais un Kickstarter, ben tu le sais tout de suite si les gens veulent l'acheter ou pas.
Ça, parce tu gages l'intérêt.
Absolument.
Mais je me demande, depuis ce que le move que M. Landry a fait, là, on parle quand même de 22 ans là, depuis ça, là, donc 97 à 2019, 22 ans. Mm-hmm. Comment aujourd'hui les gens, les investisseurs peuvent dire que c'est encore un move risqué quand on a
sont
déjà...
trop vieux.
Mais c'est exactement ça, c'est ça que je veux comprendre, pourquoi genre, c'est encore un move risqué.
Mais si on prend l'exemple de Kickstarter, par exemple, il y a 30-35% des Kickstarter qui se font financer, qui réussissent vraiment à amener le projet à terme, tu sais.
Et c'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup. Fait que c'est il a le risque. C'est que quand que t'as des belles idées, tu sais, honnêtement, avoir des bonnes idées pour un jeu vidéo, c'est pas compliqué. Puis même monter un prototype pour un jeu vidéo, c'est pas si compliqué que ça. Je veux dire, n'importe qui avec un petit peu de n'importe qui est un petit peu autodidacte va être capable de...
Tu vas sur Fiverr.com.
Non, mais tu tapes 3-4 cours Udemy, des tutoriels YouTube, puis t'es capable de faire quelque chose, tu sais. Ce qui est le plus difficile avec un jeu vidéo, c'est le dernier 20% qui te prend honnêtement 6, genre la moitié du temps. C'est le polish à la fin, genre de passer de quelque chose qui est comme correct à quelque chose qui est vendable, puis genre quelque chose qui se vend bien, qui est excellent, puis qui se market bien. Il est là le challenge, puis les gens, normalement, ils sont pas capables dans le dernier bout parce que c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'angoisse, c'est beaucoup de travail, puis ça finit par étouffer un petit peu au milieu. Avec la guilde, ce qu'on essaie de faire justement, c'est d'aider les gens à travers le pipeline en entier. On essaie justement avec les services, en ayant plein de gens autour de toi avec qui tu peux échanger puis tout ça, ben ça diminue ton stress, ça diminue ton angoisse. T'as des gens avec t'as une épaule sur laquelle pleurer.
Comme une famille.
Mais oui, exact. Oh, on se serre les coudes.
C'est comme les ligues baseball des médias, mais ouais, plus gentil, plus le fun.
Fait que c'est ça, fait que c'est risqué pour ça. Puis honnêtement, c'est de plus en plus compétitif aussi faire des jeux vidéo. Je veux dire, l'année passée sur Steam, il y a eu 7000 jeux qui sont sortis. Fait que 7000 jeux par rapport à 300, là, comme 4-5 ans. Là,
ça compte pas ceux qui sont sur Steam Greenlight, en plus, qui sont en attente, je pense.
Mais Greenlight existe même plus. C'est comme
ça existe plus, Greenlight?
Non, c'est comme le problème, en fait, maintenant, parce que n'importe qui paye 100$ peut sortir un jeu.
C'est pour ça qu'ils ont plein de controverses de jeux de merde.
Ouais, ben il y a vraiment plein de jeux pas très bons, effectivement.
Moi, j'aimais ça, Greenlight. Moi, je faisais le tour, je suis comme, ça a l'air intéressant.
Mais
ça a
oui, c'était un concours de popularité, mais au moins, c'était comme pas si facile que ça de passer à travers. T'sais.
Non, mais c'était quand même assez... Ouais, non, fallait avoir son monde, puis fallait vendre sa salade quand même. Là.
C'est clair. Fait que là, il y a de la compétition. Le modèle d'affaires, il est pas toujours facile parce qu'il faut que tu finances toute ta production avant de commencer à toucher des revenus. Fait que c'est là qu'on peut percevoir un risque. Mais par exemple, avec mon jeu, j'ai réussi à valider mon marché sur Kickstarter, j'ai des lettres d'intention de publishers qui sont intéressés, j'ai réussi à avoir de l'aide du financement avec le Fonds des médias du Canada. Je veux dire, j'ai mitigé mon risque un maximum. Là, un projet comme le mien, tu sais, on le sait qu'il va vendre à la fin parce qu'on a un petit peu validé tous les paliers, dans le fond, qui pourraient être intéressés. Le gouvernement est intéressé, les éditeurs sont intéressés, les clients sont intéressés.
Ça va bien.
Fait que là, ça va pas pire pour celui-là. Fait que, tu sais, ça vient vraiment, je pense, mitiger le risque. Puis honnêtement, quand je suis en discussion avec des investisseurs, souvent, c'est le genre des points que je ramène. Puis eux autres sont vraiment soulagés de voir qu'on a fait nos devoirs en partant.
Mais quel soulagement pour un... Mettons que je me pars à une compagnie de jeux indépendants puis je me dis la guilde est là. Genre, je serais soulagée. Tu sais, parce que c'est tellement un monde... ça change tellement souvent. Comme on parlait de Steam, ils sont plus tout seuls. Là, c'est plus juste Steam.
Non.
Là, il y a Epic qui s'en vient puis ils sont comme... Oh, oh.
Ouais.
Tu sais, en tant que... Mettons que j'étais développeur, je capoterais à être dans ce monde-là tout seul. C'est vraiment le fun. La guilde, honnêtement... J'aimerais ça être dans vos parties des fois. Ça a l'air le fun.
Ben, t'es le bienvenu.
Oui, c'est ça. Venir dans vos parties, parler de jeux vidéo toute la journée, ça serait malade.
C'est clair.
Moi, je trouve ça vraiment cool que Desjardins ait dit « Cool, nous autres, on veut... »
Ils croient au projet.
On croit au projet, puis on veut s'associer à ça, parce que vous avez quand même des gros noms qui sont associés à vous là, dans vos partenaires. Vous avez Canidée, vous avez Cossette, vous avez Loto-Québec, c'est quand même... Vous n'êtes pas underground, là.
Non. On parle avec tout le monde avec qui on est capable de parler. Puis honnêtement, la réception est toujours bonne aussi. Puis juste pour donner un autre petit cue à Desjardins, la caisse du complexe Desjardins est même en train de travailler sur un genre de package, la guilde, où est-ce que ce serait comme les entreprises qui veulent se démarrer, ils pourraient aller à cette caisse-là. Puis déjà, il y aurait des avantages, en fait, à cause que tu es un membre de la guilde. Puis eux, on est en train aussi de parler puis essayer de les éduquer sur comment est-ce que l'argent circule dans le jeu vidéo.
Oui.
Comme ça, si jamais il y a des prêts ou genre du bridge pour du financement à faire ou des choses comme ça, ben espérons que dans le futur, ça va pouvoir se faire, mais on est encore pour parler avec tout ça.
Là, on parle argent, on parle de beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a un produit qui est créé par des programmeurs. Bon, on connaît cette source de métier-là.
Mm-hmm.
Mais là, ça veut dire qu'il y a d'autres métiers autour de ça. Là. Donc, marketing, comptabilité,
gestion de projet,
mm-hmm. Coordination, en tout cas, tout ça. Là. Donc, il y a une éducation aussi à faire que dire il y a d'autres jobs qu'être designer. Là.
C'est clair.
Fait que vous, là, c'est ça, vos partenaires, les gens qui sont là, justement, ils amènent cette expertise-là pour mener à bon terme des projets comme Steamboat Billy puis, ou d'autres projets magnifiques. Là.
Exact. Puis on a encore de la job à faire, honnêtement, puis on a encore besoin d'aide. Fait que ça arrête pas là. Mon rêve dans 3 ans, c'est que la guilde, juste à travers ses services, est pérenne. Elle s'autofinance à chaque année. Mon rêve, c'est aussi que n'importe quelle entreprise, que ce soit petite, moyenne ou grande, attire un avantage d'être dans la guilde. Que quelqu'un qui sort de l'université arrive à la guilde puis qu'on puisse lui donner un package qui dit « Voici comment tu organises ta comptabilité, voici comment tu fais un livre des minutes, voici comment tu devrais loguer tes heures. »
J'aime ça.
Wow. On va y arriver à tout ça. C'est sûr que là, depuis 2 ans et demi, ça a été beaucoup, beaucoup à bout de bras.
Ça a été rapide aussi.
C'est relativement rapide, mais tu sais, pour un entrepreneur, c'est jamais assez. Là.
Non.
Mais là, on a des employés. Là, on a vraiment... ça fait quelques mois qu'on a des employés. On va avoir une direction générale qui s'en vient aussi. Fait que tu sais, là, on va avoir les outils avec l'argent des jardins, avec d'autres types de financement, avec nos événements qui font des profits maintenant. Je pense qu'on arrive dans une bonne zone avec la guilde. Fait que d'ici 3 ans, là on va voir vraiment un gros coup de poing. Là, puis on va vraiment fesser dans le marché avec les indies.
Ben, on lance le message. On lance le message aux gens qui ont l'expertise que la guilde est là et c'est des gens sérieux. Je pense qu'ils ont un avantage de venir vous aider, peu importe ce que vous avez besoin. Là, t'sais.
Yes.
Là, on a parlé de cash, puis d'industrie, puis tout, mais moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'en vient pour toi, ta compagnie, cette année, 2019, là, c'est quoi ton rêve le plus fou? Soit pour toi ou soit pour la guilde, ouais, ce que tu veux.
Ben écoute, moi, je suis intéressé de voir la compétition, justement, tu l'as mentionné, avec les distributeurs. Fait que là, au lieu que ce soit juste Steam qui distribue, parce que ça fait longtemps qu'ils ont le monopole, puis ça innove pas tant, mettons, dans les 10 dernières
non.
années.
Non. À part enlever Greenlight, apparemment.
Voilà. Non, mais c'est ça, tu sais, qui était pas un bon move.
Non.
Fait que maintenant, avec le Epic Store, on a Discord qui joue dans les plates-bandes.
Ouais.
On a Amazon qui s'en vient avec un marketplace. Google veut faire du streaming de jeux vidéo. Je pense que pour les développeurs, ça va être bon de voir de la compétition. Puis je pense qu'au bout du compte, ça va vraiment avantager les développeurs de jeux vidéo. Fait que ça, je suis intéressé de voir ce que ça donne. Sinon, nous autres, on s'enligne pour fin 2019, début 2020 avec notre projet de Steamboat Billy. Là. Fait que ça c'est comme mon souhait personnel.
C'est des longs projets, parce que moi, ça fait longtemps quand même que j'entends parler de Steamboat Billy, fait que je me dis, tu sais, c'est pas comme, hey, je vais faire un jeu vidéo, je vais faire un Kickstarter, puis je vais sortir le jeu dans 5 mois, là.
Non.
C'est comme, peut-être 2020, tu sais, c'est long, là.
Ça dépend toujours du scope de ton projet. Il y en a des projets qui se font en 6 mois, puis ça peut être des très bons
Super
jeux.
Super Seducer, je suis sûr, ça a pris 6 mois.
Il y a des projets de plus petite envergure. Le nôtre, là, en ce moment, ouais, c'est comme un gros IP. On est en train de faire des grosses cinématiques autour de ça. On va peut-être même aller voir Netflix pour voir s'ils seraient intéressés de faire une émission de télé. Je veux dire, on va frapper ça à toutes les portes, là.
Mais c'est un style qui est quand même très, développable. Il y a comme tellement de choses que vous pouvez faire avec ce style-là. Je parle du style visuel, là, artistique. Mm-hmm. Allez regarder ça sur Kickstarter, Steamboat Billy. Vraiment, il y a tellement de choses que tu peux faire avec ça, là. Ça me fait penser à, tu sais, comme les vieilles bandes dessinées.
Yes,
vieux Mickey Mouse, là.
Les vieux Mickey Mouse, c'est ça. Ouais. Notre directeur artistique, il ne jure que par les cartoons des années 30. Fait que, ben, moi, quand lui a vu Coped sortir, il a capoté, là. Fait que là, on avait la validation que ça fonctionnait comme style. Oui. Puis lui, il dessine ça en 5 minutes, honnêtement, là. Il est vraiment, vraiment bon, là.
Coped, moi, j'ai pas eu tant de fun que ça à jouer au jeu parce que je suis trop poche. Mais j'étais comme, dans ma tête, le jeu, j'étais comme 10 sur 10, 10 sur 10. Parce que c'était tellement beau.
Artistiquement, c'est tellement beau. Puis moi, en tant qu'illustratrice, graphiste et fan de tout ça, je pense que je trouve ça magnifique, là. Mm-hmm. Donc, j'ai très hâte de voir ça aussi, de l'essayer. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que d'autres. Parce que là, on sait qu'il y a des artistes extraordinaires au Québec. On sait qu'il y a des projets extraordinaires qui s'en viennent. Je pense que la Guilde est là pour faire briller tout ça.
Oui, je voulais voir la Guilde aussi sur le web. Allez sur laguilde.québec. C'est le site web. Vous allez voir aussi une liste de compagnies qui sont associées à la Guilde. Comme ça, si vous êtes comme, hey, c'est qui les compagnies de jeux vidéo dont vous parlez tant? Il y a comme un gros index là, avec plein de petites compagnies. Vous allez voir. De peut-être reconnaître quelques noms.
Mais oui, Puis joignez-nous sur Facebook et sur Twitter. On est super réactifs. Notre communauté est vraiment, vraiment cool. Puis elle répond à tout le monde qui a des questions. Puis normalement, si tu as une question, en dedans de 5 minutes, quelqu'un a répondu.
Oui, je l'ai constaté très rapidement sur Facebook. Des fois, je faisais des appels à tous. Je cherchais quelqu'un pour faire telle affaire, répondre à telle question. Très rapide. Des gens très passionnés. Merci beaucoup, Chris, d'être venu au podcast Paix sur Start. On a très hâte de suivre ton projet Steamboat Billy, mais aussi de suivre les aventures de la Guilde. La Guilde, elle a vraiment un nom long. C'est la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec.
Yes.
On appelle ça la Guilde.
Coop la Guilde, c'est assez maintenant.
Ah, Coop la Guilde, OK.
Coop la Guilde, il n'y en a pas 8.
C'est ça, exactement. Puis vous êtes près du 200 compagnie membre, donc c'est quand même très impressionnant. Et il y a un petit oiseau qui me dit que vous êtes la plus grande de votre type au monde.
Yes, la plus grande coopérative de développeurs de jeux vidéo au monde.
Ah, c'est insane. La plus belle chose, ça. Puis c'est fait au Québec. Je capote. J'aime ça.
Ouais, félicitations. Bravo, on a hâte de suivre ça. Donc, si vous voulez lire un peu plus sur ce qui s'est passé avec Desjardins, plus de détails, plus de chiffres, allez voir sur le site de Paix sur Start. On a écrit ça la semaine passée.
Merci Chris, merci Kasi. Je pense que c'était un podcast super intéressant, très très saveur de chez nous.
Ouais.
Je suis vraiment contente.
J'espère que vous allez le faire écouter à vos parents qui sont comme encore genre « Hey, Fortnite, les jeux vidéo, ça crée des dépendances. » Là, arrêtez-moi avec ces textes-là. Là, puis,
non.
Envoyez cet épisode-là à vos parents et dites « Yo, c'est une industrie qui rock, man. »
Puis dites « Yo, s'il vous plaît. »
Oui, dites « Yo » à vos parents pour encore plus valider le fait que vous êtes mature et que vous êtes prêts à
Exactement,
travailler.
Exactement, comme nous autres. T'sais.
Oui.
Hein? Suivez notre exemple. Non, faites pas ça. Alors, merci énormément d'avoir été là. Kasi, où est-ce qu'on peut suivre nos aventures?
Oui, bien, suivons notre Twitch, twitch.tv/paix sur start. On a des beaux sub-boats ces temps-ci. Ouais. Et je vais me pogner la nouvelle expansion de Sims.
Ah, s'il vous plaît.
Créer des choses. Il faut juste que je m'assure d'enlever certaines affaires qui sont pas catholiques. parce que je sais pas quelle version que j'ai, là. Mais j'ai des petites missions Sims qui s'en viennent bientôt. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Instagram. On fait des belles petites stories. Si vous ne visitez pas le site web, ben je vous crois pas. Vous non. visitez notre site web, mais les articles sont tous sur Facebook.
Et maintenant, disponible en Europe.
Oui, on en a pas parlé de ça.
Ça, c'est gros. On est disponible en Europe, enfin.
Mais là, j'ai peur qu'ils revoquent encore, mais les Européens, amis, les cousins. Vous êtes si nombreux à aimer Paix sur Start, je comprends pas. Vous êtes
pourquoi
tellement.
Vous faites ça?
vous pouvez lire nos articles maintenant. Ouais. Le commentaire qu'on reçoit le plus. Après, genre, « Hey, vous êtes donc bien cool! » Non, c'est pas vrai. On peut pas lire votre site en Europe. Là, vous pouvez, nos articles. On écrit plein d'articles tous les jours en passant, là. Fait que, tu sais, comme l'actualité gaming, il y en a pas beaucoup dans le monde en français. Donc, c'est nous qui fait ça.
Okay. Allez suivre ça.
Ça va être extraordinaire.
Sinon, sur Twitter, mais Twitter c'est surtout pour les mèmes.
Faites dans Twitch à la place. OK, bye-bye. Bye,
bye.
À l'animation, Christine Lemieux et Casie Charbonneau. À la réalisation et au montage, Philippe Séguin. Notre musique d'introduction est composée par Frédéric Poirier. Une production Cube Radio.